Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il y a des joueurs qui sont complètement hors sol, avec des familles qui les gonflent toute la journée pour leur dire que c'est les plus beaux et que c'est les meilleurs.
Ouais, il y a eu des transferts qui ont amené une certaine émulsion, même s'ils sont remplaçants, même s'ils ne jouent pas beaucoup, les nouveaux joueurs.
C'est même l'émulation, Ricardo.
C'est simple comme l'autre roche, hein. C'est clair comme l'autre roche, hein.
Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération Grammaire, ce soir sur RMC, comme tous les soirs de 20h à 22h, avec ce soir Walid Achachon. Salut Walid.
Salut Nico, salut à tous. Tu sais qu'avec l'intensité, c'est dur des fois de...
Quand
t'es pris, quand tu mets de l'engagement,
ça n'existe pas.
T'as des erreurs techniques, hein.
Tout à fait, exactement. Jennifer Mendelevitch n'a toujours pas fait de faute, je crois, dans Génération After. On va surveiller sa grammaire
non,
ce soir encore.
Pas. Bonsoir à tous.
Bonsoir, Jen.
Attention, Jen, hein, joueur, si tu dis ça comme ça.
Membre de la famille Génération After. Et Ricardo Fati, bon, quelquefois, rarement quand même, les fautes de grammaire, mon cher Ricky.
Ça arrive.
Ça arrive à tout le monde, de toute façon. Bonsoir, Ricky.
Bonsoir à tous.
Heureux de te retrouver jusqu'à 22h, Génération After. Et bonjour à toi qui nous écoute un podcast. Au programme ce soir, l'OM est-il toujours attractif, privé de Coupe d'Europe, toujours pas de coach nommé, un environnement instable, un effectif qu'il va falloir révolutionner. Qui peut encore attirer l'OM, entraîneur ou joueur? On va en débattre avec vous au 32-16. 20h30, Monaco doit-il viser encore plus haut dès la saison prochaine? Solide deuxième de Ligue 1, l'ASM doit-elle se donner les moyens avant de retrouver la Ligue des Champions et d'aller lutter, pourquoi pas, avec le PSG? Maxime Thiel, notre correspondant à Monaco, sera avec nous. Il a rencontré le directeur sportif de l'ASM, Thiago Scuro. 21h, Lyon peut-il finir la saison en apothéose après une deuxième partie de saison digne d'un champion? L'OL est-elle vraiment outsider avant la finale de Coupe de France contre le PSG? Puis 21h30, soyez aussi au rendez-vous, gros bilan Ligue 1, satisfaction, déception, révélation, ça peut être joueur, entraîneur, club, vous donnerez vos choix, Jennifer, Ricardo et Walid, et vous aussi venez au 32-16 nous dire, hein, quels sont vos choix, satisfaction, déception et révélation de la Ligue 1 saison 2023-2024. Et puis à 22h, l'after avec Gilbert. Salut Gilbert.
Salut tout le monde.
Salut Gilbert.
Salut. On va parler de Lyon nous aussi ce soir avec les infos de la semaine, la Coupe de France qui arrive. Et puis le manège Macron, Mbappé, Florentino Pérez. Vous avez suivi ça?
Ah oui, bien sûr.
Donc, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop là? Est-ce qu'on n'en a pas un peu marre de tout ça? Bon, on verra. On va en débattre tout à l'heure. Et puis, les auteurs d'un bouquin sur les coulisses du PSG également dans l'after ce soir, PSG confidentiel, qui revient sur toutes les dernières affaires, là, notamment de l'année. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des reporters de terrain, des reporters au long cours qui font ça. Ce n'est pas des gens qui viennent du sport. Voilà, donc c'est un profil différent. Donc c'est intéressant d'avoir leur point de vue sur ce qui se passe au PSG, leur point de vue d'enquêteur.
Les sources.
Et puis, les drôles de l'âme. Pourquoi? Parce que demain, il y a la finale de l'Europa League. Parce que Kroos arrête sa carrière.
Oh, ça,
on en parlait.
34 ans.
Incroyable.
34 ans.
Au top. On pensait que Modric allait arrêter. Et finalement, il devrait prolonger à Madrid. Et Kroos arrête. Après l'Euro, c'est ça, ouais.
S'il arrête avec une Ligue des Champions et un Euro à la maison, là.
C'est le plan, à mon avis.
Ouais. Donc les drôles de l'âme seront là pour toute l'actu européenne. Et il y en a ce soir.
À tout à l'heure, Gilbert, à partir de 22h avec Flo et Daniel. Je vous rappelle qu'on est en direct sur la chaîne YouTube de l'After, @after-foot. Pour nous voir, vous abonnez déjà. Vous êtes 159 000 et commentez sur le chat. Envoyez vos commentaires, ils seront dans le mur juste derrière moi, dans le studio RMC ici à Paris. Le 32-16 est ouvert, vous le savez. Puis Twitter, hashtag RMC Live. N'hésitez pas, et l'application RMC Sport Direct Studio. Tiens, je vous rappelle également que notre roue continue de tourner sur RMC. Chaque jour, vous pouvez remporter jusqu'à 20 000 euros. Dès que vous entendez cette alerte-là, vous aurez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant roue par SMS au 732-16, roue au 732-16. Restez bien à l'écoute. L'alerte peut tomber à tout moment dans la soirée sur RMC. C'est donc parti pour Génération After. On va parler peut-être ce soir également une information dernière minute. Breaking news. Peut-être que Julien Laurent sera avec nous dans quelques secondes. Maurizio Pochettino quitte Chelsea.
Hein? Quelle surprise!
On parle d'un accord mutuel entre les deux parties, évidemment. Comment le croire? Eh oui, eh oui.
Et pourtant, moi, je suis un peu surpris vu, la fin de saison qui était plutôt.
Moi, je suis pas surprise.
Ah oui.
Pourquoi?
Parce que ça fait plusieurs semaines qu'il fait des déclarations où on comprend que la gestion du mercato lui a pas forcément plu, que il a pas non plus tous les joueurs qu'il aurait voulu.
Il a eu beaucoup de joueurs quand même.
Oui, il a eu beaucoup de joueurs, mais est-ce qu'il a eu les bons? Ça, c'est un autre débat. Il y a de gros problèmes au niveau de l'infirmerie quand même, parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas recruter que des mecs qui se pètent la même saison. Donc, moi, je suis pas surprise. On sait que Chelsea, et je suis bien placée pour le savoir, comptait vraiment être qualifiée pour la Champions League, qu'il y avait des énormes bonus prévus pour les joueurs en cas de qualification. Une grosse part de leur rémunération était basée là-dessus. Donc moi, je suis pas étonnée que l'histoire se termine ici.
Justement, Jules Laurence, réactif, est avec nous dans Génération After. Salut Jules.
Salut Nico, salut à tous.
Bon, Walid est surpris, Jennifer beaucoup moins. Quel est ton sentiment après cette annonce, donc la rupture de contrat de Mauricio Pochettino?
Ouais, après un an seulement, les propriétaires américains avec qui c'est vrai que ça, j'ai pas entendu ce que Jennifer vient, enfin j'ai entendu que la fin de ce qu'elle vient de dire, mais toute la saison un petit peu, on a eu ce sentiment de malaise un petit peu entre Pochettino, surtout au début quand ça marchait pas très bien, et les propriétaires de Chelsea. On sait qu'il y a deux propriétaires en cas à Chelsea qui sont à la tête d'un consortium, mais deux propriétaires qui sont avec Bali et Boli. Pochettino est sans aucun doute l'homme de Todd Boehly, c'est lui qui l'a choisi, c'est lui qui l'a voulu. Ekbali est pas trop chaud, a jamais été vraiment très chaud sur Mauricio Pochettino. Et aujourd'hui, au club, on nous dit que Ekbali est de plus en plus le patron, et d'où les tensions plus vives, on va dire, en cette fin de saison que peut-être il y a encore même 6 mois, malgré les bons résultats. Ils finissent avec 5 victoires de suite en championnat.
C'est ce que je disais, ouais.
Ils sont 6e, ils se qualifient pour une Coupe européenne, alors qu'à un moment, ils étaient quand même 11e et 12e en championnat. Ça a été compliqué à un moment. Et quand ça va mieux, on le fait sauter. Je pense qu'ils n'étaient pas alignés sur la même.
Exactement.
Ils n'étaient pas dans la même phase.
C'est quoi la phase des dirigeants de Chelsea? Parce qu'on ne la comprend pas trop non plus.
Alors déjà, c'est pas trop dépenser plus d'argent, alors que Pochettino voulait qu'il y ait pas mal de ventes et pas mal d'arrivées maintenant. Il avait répété par exemple il y a 3 semaines de ça, c'est pas mon équipe. C'est quand même bizarre pour un entraîneur qui a été là toute une saison, que lui-même dise non, c'est pas mon équipe, c'est l'équipe du club, mais c'est pas mon équipe. C'est très bizarre à entendre. On n'a pas trop l'habitude non plus. Donc je pense qu'il voulait pas mal d'investissements. Rappelez-vous, au mois de janvier déjà, il avait dit j'ai besoin d'un numéro 9, il faut absolument un numéro 9. Et le club n'était pas du tout prêt, après avoir dépensé plus d'1 milliard d'euros sur les 3 derniers marchés de transfert, de redépenser encore de l'argent. Donc il s'était pas vraiment aligné, si tu veux, déjà en termes de recrutement et de quoi faire avec cet effectif-là pour la saison prochaine. Et puis aussi, Pochettino a quand même une réputation un petit peu ici en Angleterre, dans le sens où il veut souvent être le patron. Dans un club comme Chelsea actuellement, dans sa structure professionnelle, dans son organigramme, où tu as quand même pas mal de directeurs sportifs, tu as les deux propriétaires dont je viens de parler, il pouvait pas vraiment être le patron, et je pense que ça aussi, ça le frustrait pas mal.
Bon, évidemment, la question de l'avenir va se poser dans les prochaines heures. Qui pour lui succéder? Il y a plusieurs noms que je vois ici. Julien, tu me dis si t'as les mêmes. Ruben Amorim, entraîneur du Sporting, bien sûr. Ou pourquoi pas également l'homme qui a fait monter Ipswich directement de Championship à Premier League cette saison, Kieran McKenna. Est-ce que ça peut être l'un des deux? Est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre?
Amorim, il était cité à Liverpool avant Arne Slot.
Moi, j'ai une théorie, mais...
Vas-y Julien, après Jennifer.
Non, juste pour Amorim, ils ont annoncé hier soir au Sporting dans la soirée un petit peu de fin de saison du club qu'il allait rester la saison prochaine. Ouais. Je vois mal maintenant faire marche arrière, changer tout ça. Pour Kieran McKenna, en revanche, c'est très intéressant parce que il est très convoité en Angleterre par Chelsea, mais par Brighton par exemple, qui va chercher un remplaçant à De Zerbi, peut-être même à Manchester United où il devrait se séparer d'Erik ten Hag. C'est un jeune entraîneur qui est très très bon avec les jeunes joueurs, qui est très très bon pour faire progresser un effectif individuellement et collectivement. On l'a vu avec Ipswich par exemple sur les deux promotions des 2 dernières saisons. Ça peut coller avec ce que veulent les propriétaires américains de Chelsea. On sait par exemple qu'ils sont en train de recruter, en passe de recruter Estevao, le petit prodige brésilien pour qui ils vont dépenser encore pas mal d'argent. Donc ils veulent vraiment ce côté jeune joueur qu'on va faire progresser, qu'on va peut-être vendre après pour plus cher d'ailleurs. Mais pour eux, McKenna serait peut-être le bon entraîneur pour ça. Donc faudra voir. Mais oui, c'est celui qui a la plus grosse cote ici en Angleterre parmi les entraîneurs britanniques en tout cas.
Julien, merci. Je crois que tu seras dans l'after également ce soir. À très vite sur RMC. Très bonne soirée. Merci, merci beaucoup Julien d'être venu.
Merci Julien.
Rapidement merci. Dans Génération After. Pourquoi Jen, toi ? Quelle est ton autre option hypothèse ?
Bah moi mon autre option c'est de Zerbi clairement parce que Chelsea fait du Brighton. Chelsea recrute à Brighton. L'un des deux directeurs sportifs, Paul Winstanley, était à Brighton. On recrute Caicedo à Brighton. Sam Jewell, qui était directeur sportif de Brighton jusqu'à cet été, arrive à Chelsea. Pour moi, il y a une forte... Alors, j'ai pas d'infos, mais si on suit la logique, développer des jeunes joueurs, aller les acheter en Amérique du Sud ou ailleurs, comme Brighton sait très bien le faire depuis des années, pourquoi pas le faire à Chelsea ?
Réaction ?
Il y a clairement eu un décalage de vision entre Pochettino et Chelsea. Je pense que c'est pour ça. On a vu le dépit à chaque match de Pochettino se morfondre par rapport à son effectif, par rapport aux joueurs qu'il avait pas aussi. Donc forcément, je pense que la fin a été inéluctable pour lui. Après, Ruben Amorim reste à Sporting, oui. C'est confirmé. De Zerbi, pourquoi pas. Mais après, oui, le jeune coach Ipswich, pourquoi pas. Parce que c'est un nouveau coach qui va se plier, on va dire, aux conditions et à la vision de Blueco. Donc moi, je vois bien l'option, on va dire, underdog du coach Ipswich.
Non, c'est intéressant ce que dit Jen sur la filiation entre les deux clubs. Maintenant, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que ça fait un coach de plus, quoi, un coach de plus, une illisibilité encore du côté de Chelsea, alors que je trouvais que sur la fin de saison, autant sur toute la saison, c'est vrai que j'avais beaucoup de doutes sur Pochettino, mais là, je trouvais que sur la fin de saison, il y a quand même des gros résultats contre des bonnes équipes de première ligue. T'as un Cole Palmer qui est en grande forme et qui fait une saison incroyable, qui emmène un peu tout le monde. T'as Caicedo qui a mis un but sur le dernier match, même si c'est une déception par rapport à son prix, mais tu sens que sur les prochaines années, avoir un peu de continuité, ça aurait été mieux. Ouais. Maintenant, à voir avec De Zerbi. On peut rajouter Cucurella aussi, qui est passé de Brighton à Chelsea, donc. À voir. De toute façon, De Zerbi, ça va être une attraction sur la fameuse.
Ah, lui, il veut rester en première ligue.
Il a expliqué.
D'accord. Moi, j'adore ce championnat. Je suis heureux ici. Je veux rester en première ligue. Oui, alors, sur Johan Crochet, hier, avec les drôles de dames, il expliquait, Johan, que pour Milan, ça va être très compliqué.
D'accord.
En revanche, lui, c'est première ligue. Et effectivement, il lance sur Chelsea et sur United. Même si Julien nous dit, m'a dit dans le cas tout à l'heure, il veut pas refaire du Brighton, De Zerbi, quoi. Il a pas, ça ressemble à ça à Chelsea.
Il a aussi envie de step up, je pense.
Oui, c'est ça, exactement.
Mais Chelsea, c'est pas réellement du Brighton, parce que le propriétaire de Brighton, pour lui faire un gros chèque pour acheter un joueur, c'est très compliqué. Ouais. À Chelsea, c'est quand même d'autres moyens, et je pense qu'il viendra pas sans assurance d'avoir aussi son mot à dire sur les recrues.
Voilà, pour c'est à dire, Nico, De Zerbi habite à Londres. Enfin, réside à Londres, donc ça a son importance.
Bon, après, je pense qu'il peut prendre le train et aller ailleurs en Angleterre, voir dans le Nord.
S'il peut prendre le bus, c'est mieux pour lui. Ou la voiture.
Voilà pour cette info, bien sûr, plus d'éléments sur le site rmcsport.fr. Le départ de Chelsea après une saison seulement de Maurizio Pochettino. Hein, il en sera question aussi dans l'after avec Gilbert tout à l'heure. Beaucoup de réactions sur le chat. Pourquoi pas Tourelle à Chelsea pour un retour. Voilà, allez-y, vos propositions. Le retour de Mourinho à Chelsea, nous dit également Idir sur le chat de la chaîne YouTube. L'after.
C'est vrai que l'avenir de Mourinho, de toute façon, là, on a l'impression qu'il y a plus de coachs que de.
Il y a des bruits en Turquie pour Mourinho.
Il y a plus de postes que de coachs, j'ai l'impression.
Ah, mais là, c'est l'été des entraîneurs. Ça va être incroyable. En Ligue 1 et en Europe.
Ligue 1, Ligue 2, Europe, sincèrement, ça va être le feu partout.
Justement, on va parler d'entraîneurs dans un instant. On va parler de l'Olympique de Marseille. Est-ce que l'OM est toujours attractif pour attirer un coach référencé, un coach qui a un vrai projet, un coach qui aura très envie de venir avec le bouleversement à venir dans l'effectif? On en débat dans Génération After avec Walid Acharchour, Jennifer Mendelevitch et Ricardo Fati. Merci d'écouter RMC, il est 20h13.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Jennifer Mendelevitch, avec Ricardo Fati, avec Walid Acharchour, on est ensemble jusqu'à 22h, bien sûr, tiens, 21h30. Voir un peu avant le gros bilan Ligue 1, vos satisfactions, déceptions, révélations, appelez-nous au 32-16 pour participer à cette tradition de fin de saison dans l'after. D'abord, Marseille était périlleux à venir pour l'OM. On annonce encore un gros chamboulement de l'effectif pour lancer un nouveau projet de 3 ans avec bien sûr un nouveau coach, pas encore désigné. Flo Germain nous disait hier soir que le mercato serait mené avec une limite, et de taille, réduire la masse salariale. Très peu de joueurs ne seront pas sur la liste des indésirables. Voilà ce que nous dit Flo aussi. Balerdi, Aubameyang, Babo Meite, Amir Mourinho, Faris Moumbagna, Quentin Merlin, Bilal Nadir ou Valentin Rongier. A priori, on compte sur eux, même si on sait que la vérité d'avant Mercato n'est pas celle du Mercato. Le cas de Jordan Vertu est différent. Il a donné satisfaction, évidemment, mais il a un salaire trop important. On veut croire en Ndiaye, Illiman Ndiaye, en Amin Harit. En revanche, Sarri Onaï seront invités à partir en cas d'offre intéressante. Idem pour Klos et Bemba, parce qu'ils arrivent à un an de la fin de leur contrat. Et pour, bien sûr, Geoffrey Kondogbia, très gros salaire pour une saison échec. Doute également autour de l'avenir de Gigo et Ulysse Garcia. Chantier énorme donc pour la direction auquel sera associé le nouvel entraîneur. Mais comment attirer un coach référencé, des joueurs de valeur, qui plus est en Coupe d'Europe, une masse salariale à maîtriser la saison prochaine? Vous nous appelez, Sporting Marseille, au 32-16. Est-ce que l'OM est toujours attractif? Tiens, je commence avec toi, Jen, qui a aussi un regard sur le mercato marseillais. Est-ce qu'il est excitant? Est-ce qu'on peut repartir sur de très bonnes bases en faisant une révolution totale du banc de touche au terrain, de l'entraîneur au joueur?
Bah en fait, tout est lié. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est difficile de trouver un coach parce que justement, il n'y a pas de lisibilité sur le projet, sur les moyens. Un coach, quand il vient, il veut quand même avoir des certitudes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Marseille donne aucune certitude et depuis malheureusement un bon moment, avec la non-qualification en Coupe d'Europe, le budget va être serré. Il y a eu d'énormes erreurs de recrutement et aujourd'hui c'est difficile pour un coach de se projeter avec la liste que tu viens de nous donner de joueurs qui sont partants. C'est bien beau de le dire maintenant, mais en réalité c'est le coach qui va arriver qui va décider qui est-ce qu'il a envie de garder, qui est-ce qu'il a pas envie de garder, peut-être même après une pré-saison.
Il y aura des impératifs post-salariales quand même, compte donc bien qu'un énorme salaire à Marseille.
Je veux bien, mais quand tu commences à essayer de vendre en disant que tu as des impératifs de masse salariale, tu risques pas de vendre très bien en fait. À partir du moment où les gens savent que c'est la crise chez toi, tu vas très mal vendre. Et le problème, c'est que Marseille, ben écoute, on nous dit on part avec Gattuso sur un projet de 3-4 saisons, finalement il est viré 24 heures après. Donc qu'est-ce qu'on peut croire de ce genre de ce genre d'infos?
C'était de la communication, je pense, à l'époque.
Ouais, mauvaise.
Oui, peut-être mauvaise, mais en tout cas, elle était.
Donc là, c'est difficile pour un coach de se projeter. Maintenant, faut pas non plus tout désinguer d'un coup. Marseille, ça reste Marseille.
Ah voilà, ça reste attractif pour toi, Marseille.
Bah évidemment. Ouais. Je veux dire, en termes de statut de club, tu parles à n'importe qui à l'étranger, il connaît l'OM. Les joueurs, c'est pareil. Ce qui est pas le cas pour. Enfin, ça reste pour moi un club phare du.
Parce que c'est aussi une exposition, parce que c'est diffusé en prime time. Chaque semaine, pour le joueur,
on a entendu
les vibrations du stade.
Gasperini, après le match contre l'Atalanta, quand il te parle du Vélodrome,
il te dit.
Mais bien sûr, et pour moi, un coach, c'est évident que s'il a un minimum d'assurance sur les moyens qu'on va mettre à sa disposition, bien sûr que Marseille, ça reste attractif. Aujourd'hui, c'est un projet super excitant. Maintenant, en termes de joueurs, c'est un peu différent. C'est-à-dire que c'est super excitant pour des joueurs pour qui il ne va pas y avoir une concurrence énorme. Parce que les choses sont ce qu'elles sont. Et si y a des clubs qui ont plus de moyens, bah les joueurs ciblés par l'OM ne viendront pas. Mais aujourd'hui, il faut quand même arrêter de penser que Marseille, parce qu'ils ont fait une mauvaise saison, toute l'image qui a été construite depuis tant d'années s'effondre en 5 minutes.
Walid.
Non, bien évidemment, quand on parle d'attractivité, ça dépend où on la place. Et on le voit avec Fonseca. Si aujourd'hui on parle de l'AC Milan qui va jouer la Ligue des Champions et qui a un prestige supérieur à l'Olympique de Marseille, il ira à l'AC Milan maintenant. Ça n'empêche pas que si tu n'as pas Fonseca, tu peux pas avoir des coachs qui seront intéressés par ton projet et par l'Olympique de Marseille. La même chose pour les joueurs. On parle quand même d'un club qui a su attirer sur les dernières années des joueurs quand même étonnants. Alexis Sanchez, Aubameyang. Ouais. Donc aujourd'hui, peut-être que tu ne les auras pas parce que financièrement, tu vas devoir payer tes erreurs. Mais il y aura quand même une range de joueurs que tu pourras attirer, que ce soit sur des contrats ou même sur des prêts.
Sur des prêts
à la relance, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais on l'avait vu avec Saliba, Arsenal, notamment.
Des prêts, ça veut dire encore bricoler.
Oui,
en fait.
Mais malheureusement, il va falloir, quoi qu'il arrive, Nico, tu peux pas aujourd'hui avoir fait des erreurs et ne pas les payer l'année d'après. Surtout que cette année, tu payes le barrage de Panathinaikos Et plus le rattrapage où t'as pas réussi sur le championnat à aller en Ligue des Champions, alors que cette année il y avait 3+1.
Je suis d'accord avec toi, mais le problème des prêts, qu'est-ce qui se passe quand t'as des joueurs en prêt, c'est que c'est des joueurs qui sont pas concernés, ils en ont rien à faire.
Pas forcément.
Saliba,
par exemple, vous voulez se relancer.
Mais tu peux pas avoir trop de joueurs en prêt dans un club. Sinon t'as personne qui est impliqué. Ils savent qu'à la fin de saison ils s'en vont. Le but c'est aussi de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses, on le sait. Et avec des prêts, bah malheureusement tu développes les joueurs de quelqu'un d'autre et tu revends rien du tout. Donc, attention.
Moi, je te parle de mix. C'est-à-dire, je te dis pas qu'il va avoir 7 ou 8 prêts. Mais demain, tu peux faire un coup sur un ou deux joueurs.
Touche, 2-3 prêts.
Parce qu'on disait sur la manne financière, ça va être très, très compliqué. Déjà, moi, je pense que quand on parle de Kondogbia ou d'autres joueurs, il va avoir le championnat magique qui va apparaître comme pour Renan Lodi en janvier. Je pense que la sortie en Arabie Saoudite pour un ou deux joueurs, surtout avec les contacts qu'a Mehdi Benatia là-bas, je pense que ça peut être très très intéressant pour libérer un peu de la masse salariale. Ensuite, après, il va falloir voir comment ils vont constituer leur équipe et surtout quel coach va arriver. Ça va être surtout ça, la direction. Donc, pour l'instant, on est un peu dans l'attente avec Marseille. On peut pas avoir d'avis tranché là-dessus, mais moi, je pense quand même que à un match par semaine l'an prochain, tu peux avoir un effectif compétitif avec un entraîneur qui a des idées. Aujourd'hui, tu t'appelles pas Marseille, t'es pas Louan Cuiseau. Donc globalement, je pense qu'il y a des choses à faire et ça va être à eux, Longoria et Benatia notamment, de rebondir parce que on va les attendre là-dessus.
Ricardo, une question quand même parce que t'as joué dans les années 2000, 2010 notamment en France. Est-ce que même dans les périodes de crise de l'OM, il y en a eu plusieurs sur les deux dernières décennies, l'OM restait attractif. Quand vous parlez dans le vestiaire de Marseille,
toujours,
tous les joueurs.
Toujours, c'est toujours un plaisir de se déplacer au Vélodrome, toujours le plaisir de les accueillir.
Mais d'y jouer, toujours de porter le maillot, d'y jouer avec la pression que ça implique.
Il y a une pression particulière, après selon les époques, hein, de toute façon je vais pas refaire l'histoire, mais on sait que c'est plus délicat de jouer à l'OM. Il y a eu un moment où c'était magnifique, avec Deschamps, année 2010, titre de champion, Champions League, tout ça. Mais après, de ce qu'on parle, c'est vraiment du terme de reconstruction.
Ouais.
Et pour moi, je vois ça d'un bon œil. Alors certes, on va recommencer un peu encore à zéro, il y aura du travail à faire, du bricolage, c'est le terme, mais je pense que ça peut être aussi quelque chose d'intéressant pour l'OM d'en partir encore une fois sur des bases saines, mais véritablement de prendre vraiment de retenir les leçons du passé. Et je pense que ce qui sera primordial cette saison, c'est aussi le discours du coach. Le discours d'un coach, parce que au-delà de l'aspect financier, de l'aspect, on va dire, contractuel, que ce soit un prêt ou des joueurs qui partent ou qui arrivent, c'est vraiment ce qu'on va proposer sportivement à l'OM. Et je pense que sportivement, ça reste attractif.
Et ça reste
l'incarnation du coach est super important.
L'histoire financière, sur les dernières années, quand même, on a vu Lens faire podium avec de la cohérence. On a vu Lille qui était au fond du trou après Gourvennec, notamment financièrement, qui avec un coach. Et c'est pour ça que le coach va être très important.
Est-ce que tu peux recruter comme Brest l'a fait, Brest non, avec ses moyens, ses problèmes de Ligue 1 ou Lens aussi.
Je parle pas de Brest, je suis pas là pour comparer.
Tu peux recruter comme Lens quand t'es Marseille. C'est ça la difficulté, c'est un débat qu'on fait souvent.
Je dis juste que sur la période Covid notamment, l'effectif de l'Olympique de Marseille sous Villas-Boas, regardez les compositions d'équipe, je peux te dire qu'il n'y a pas des cracks à toutes les lignes. C'est très compliqué. À un moment donné, tu dois mettre Germain sur le côté, tu dois mettre Maxime Lopez sur le côté, t'as Benedetto, t'as des petites idées, et tout n'est pas une franche réussite. Donc, je pense globalement que l'Olympique de Marseille, l'année prochaine, va pouvoir être ambitieux et compétitif en Ligue 1. Je répète, qu'avec la Ligue 1, avec des bonnes idées, avec du travail. Et peut-être que ce que tu l'expliquais tout à l'heure dans les infos de Flo Germain, là, oui, il va falloir faire, je vais pas dire table rase, mais il y a 3-4 dossiers. De toute façon, on a bien compris avec les infos de Flo Germain que tous les cas vont être étudiés. Hein, de Aubameyang qui a fait une grosse saison.
Tout le monde est vendable.
Parce que Aubameyang à 700 000 par mois aujourd'hui, sans la Ligue des Champions ou sans l'Europe, ça va être très très compliqué à assumer. Mbemba qui arrive à un an de la fin de son contrat avec un âge avancé, comment tu fais, comment tu le gères. Unai, il y a peut-être un marché en Espagne à explorer pour essayer de récupérer les 10 millions d'euros que tu as mis, même s'il faudra faire attention, je crois qu'il y a 25% à la revente à Angers. Voilà, tout ça, il va falloir, s'il y a des portes de sortie, s'il y a des possibilités, Kondogbia, il va falloir tout étudier et derrière, avec le coach, faire quelque chose de positif.
Et c'est vraiment là qu'on va attendre le travail d'un Mehdi Benatia, justement, comment il va travailler.
Voilà, c'est son premier gros
mercato. C'est là qu'il va être au révélateur. Et surtout, encore une fois, je me répète, mais ça fait le choix du coach, il va être important pour.
Ça ne pas faire travailler avant l'hiver. Ne pas recruter comme ils l'ont fait cette année avant d'avoir nommé un coach. D'abord, le coach.
Et ils n'ont pas les mêmes moyens que l'année dernière, surtout. Hein. Ils ne l'ont pas eu en janvier. Il faudra aussi le prendre en compte dans l'analyse.
D'avoir le discours pour attirer le joueur qui va faire des certaines concessions pour arriver dans un projet sur 2-3 ans et puis bon.
Mais ils vont avoir de la concurrence sur tous les dossiers demain.
Bien sûr.
Un numéro 9, tu veux Miko Tadze en remplacement de Aubameyang, si Aubameyang part par exemple, Miko Tadze, il va avoir Rennes, il va avoir Monaco, il va avoir pas mal, et ça, ces joueurs-là vont devoir faire le choix de où est-ce que tu vas.
Et je me répète, le choix, il va se poser où ? Pas forcément sur côté financier ou côté attractivité, c'est le côté aussi discours du coach.
Ouais.
Encore une fois, c'est pour cela, il faudra prendre les choses dans l'ordre.
Allez, pause. Dans un instant, on prolonge le débat sur Marseille. Mickaël sera avec nous au 32-16, supporter de l'OM. L'OM est-il toujours attractif ? C'est notre débat dans Génération After. Et tiens, on lancera aussi, c'est un match important évidemment, à fort enjeu, match de barrage entre Rodez et le Paris FC. Le vainqueur de ce match affrontera l'AS Saint-Etienne vendredi soir. Reste avec nous, Génération After sur RMC, les 20h28. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Jennifer Mendelevitch, avec Ricardo Fati, Walid Acharchour, RMC 20h31. Et c'est parti! Rodez, Paris FC, match de barrage avec Julien Landry sur place. Bonsoir Julien.
Salut Nico, salut à tous. Effectivement, c'est parti depuis deux minutes exactement au stade Paul Lignon, entre un habitué, le Paris FC, l'équipe qui a le plus disputé de barrage, la quatrième fois ce soir contre un invité totalement surprise, hein, Rodez,
incroyable.
Ouais, Rodez, 15e budget de Ligue 2, qui fait partie des 5 depuis à peine 4 journées, qui a pris la 4e place lors de la dernière journée et qui reçoit Paris ce soir. Rodez, habitué des aventures en Coupe de France, on se rappelle que Rodez avait sorti le PSG à la fin des années 2000, avait affronté Marseille en demi-finale de Coupe de France, mais jamais Rodez n'avait atteint un tel niveau en championnat. Et maintenant, ben, l'appétit vient en mangeant et les Ruthénois se verraient bien du côté de Saint-Etienne vendredi soir avant, pourquoi pas, de défier Metz ici. Mais d'abord, il va falloir battre le Paris FC, qui est un habitué, même si le début de saison avait été compliqué pour les hommes de Stéphane Gilly, mais ils se sont bien repris et affrontent ce soir donc Rodez pour aller affronter Saint-Etienne vendredi soir du côté de Geoffroy Guichard. Parti depuis 3 minutes, attention, et l'ouverture du score parisienne sur un ballon remis au deuxième poteau, le ballon qui a traîné, et c'est Camara, il me semble, Nouadiko qui était là au deuxième poteau pour mettre ce ballon au fond des filets. Les Ruthénois qui étaient un peu endormis, et c'est vrai qu'ils ont eu du mal à réagir sur ce ballon qui est revenu au deuxième poteau. Dico qui s'est parfaitement jeté pour mettre ce ballon au fond des cages de Jaouen. Et voilà Paris qui ouvre le score après seulement 3 minutes ici au stade Paul Lignon. 1-0 pour le Paris FC.
Fallait y croire là sur le but. Hein.
Magnifique, il s'est arraché là-dessus. Ouais. Il est monté très haut également.
Un joueur super puissant, Dico.
Bon courage à ces deux équipes qui vont jouer 12 matchs en 3 jours.
Koh-Lanta qui débute là.
Pour monter en Ligue 1.
Il termine avec l'épreuve des poteaux. Et puis t'as un conseil pour savoir vraiment si ils vont
en
Ligue 1.
C'est la brune qui va trancher.
Ouais, à la fin, il y a la brune qui te la torche. Il peut te l'éteindre.
Hein. Exactement. Hein.
Surtout pas Rodez en Ligue 1.
Surtout pas, mon Dieu.
Pour la brune.
Déjà qu'il a Brest en Ligue des Champions.
Oulala.
Très mauvais. Bon, Marseille.
Malheureusement pour Vincent, tout est aux normes du côté de Paul Lignon, même s'ils sont en travaux. Pelouse,
Il va aller vérifier si les merguez sont bien cuites.
Rodez pourra jouer la Coupe d'Europe aussi. Oh, quel drame, c'est terrible.
Ils pourront pas faire comme Luznac. Par contre, tout est au nom du côté de Rodez. C'est vrai que ça, c'est compliqué.
Même ils vont trouver quelque chose.
L'OM était toujours attractif. C'est notre débat. Il y a beaucoup de réactions sur le chat, YouTube, bien sûr. D'abord, j'accueille Mickaël, supporter de l'OM au 32-16. Salut, Mika.
Jennifer, Ricardo, Walid et toi, Nico.
Bienvenue sur RMC, Mickaël.
Merci.
Salut, Mika.
Bonsoir.
Alors, est-ce que tu penses que ton club attire toujours autant, comme à la grande époque ou aux grandes époques ?
Alors, ce que j'entends, il n'y a pas de Coupe d'Europe l'année prochaine, donc du coup, l'OM ne va pas être attractif, les entraîneurs, qui c'est qui va vouloir venir ? Je sais que sur le plateau, il y a Walid. Walid, c'est le Wikipédia du football. Walid, 2014-2015, c'était qui le coach de l'OM ?
Bielsa ?
Ouais. Est-ce qu'il y avait une Coupe d'Europe cette année-là ?
Non.
Ok. 2019-2020, c'était qui le coach de l'OM ?
Villas-Boas ?
Ouais. Est-ce qu'il y avait une Coupe d'Europe en 2019-2020 ?
Non, j'en ai parlé tout à l'heure.
Voilà. Donc du coup...
Tu sais, je pense que Jen et Eric ils avaient aussi les réponses.
Oui, on avait toutes les réponses.
Non, mais il a envie de se frotter à Walid.
Ouais, je crois, ouais.
Ouais.
Attention, c'est dur de se frotter à moi.
Ouais, je sais.
Si Franck, c'est pite.
Alors, tout ça pour dire blague à part, en fait, je pense que, de toute manière, vous l'avez dit, il va avoir une énorme valse des entraîneurs tout l'été. Je pense que Marseille reste attractif. Que ce soit en matière de coach ou en matière de joueur. De la même manière, tout à l'heure, ce que je disais à Max, alors je m'engage peut-être un petit peu, et ça va pas faire plaisir à nos amis brestois, mais je disais, un loco, par exemple, latéral droit, si demain il a le choix de jouer la Ligue des Champions avec Brest ou de signer à l'OM, je peux quasiment parier beaucoup qu'il signera l'OM.
Je suis d'accord.
En fait, ce que je veux dire, c'est que
ça s'entend. Bon,
l'OM a une telle attractivité aujourd'hui que ça reste un des plus gros clubs français. En tant que supporter marseillais, je dirais même le plus gros, le plus grand. Mais bon, l'objectivité, je l'ai peut-être pas. Tout ça pour dire que du coup, je pense que en termes de joueurs, ça peut être intéressant. J'entendais parler d'Habib. Tout à l'heure, j'étais un petit peu contrarié parce que moi, j'adore Habib Bey comme entraîneur avec le Red Star, c'est bien. Comme joueur, je l'ai adoré en tant que supporter de l'OM. Cheikh Walid, toi, t'as vu énormément de matchs du Red Star et t'en parlais en bien. Mais entre le national, où t'es le meilleur, le plus gros budget de national et l'OM, il y a quand même un sacré gap à.
Oui, oui, ouais, après encore une fois moi l'idée c'est pas de faire le débat
Habib
Bey à l'Olympique de Marseille, on en a déjà parlé. Moi j'ai dit que si demain il décidait de prendre Habib Bey, je pense qu'Habib Bey a les qualités pour le faire, mais je pense que pour l'Olympique de Marseille il doit être dans une shortlist de 5-6e choix, et c'est plutôt logique parce que je pense qu'il y a des entraîneurs qui ont un peu plus de références, notamment on parle de Fonseca, on parle de Franck Hayes, on parle d'autres entraîneurs en Italie, mais on va pas refaire le débat éternellement. Maintenant, pour revenir sur le choix des joueurs, ce qui est intéressant sur ton exemple de Bradley Loco, c'est que est-ce que si Bradley Loco qui a fait une super saison avec Brest, notamment, s'il vient à l'Olympique de Marseille, est-ce qu'on sera satisfait de ce recrutement? Est-ce qu'un recrutement Ligue 1?
Mais c'est ça qui est intéressant.
Est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'un recrutement Ligue 1 peut?
Mais il faut que Longoria et Benassia fassent cet effort-là intellectuel en réalité, d'accepter de faire venir moins de nos ronflants.
Peut-être.
Comme beaucoup de supporters. Mais
est-ce qu'ils le veulent? Est-ce qu'ils l'accepteraient les supporters? C'est aussi ça le.
Mais après, Mickaël.
C'est ça, parce que aujourd'hui, sur la fameuse attractivité, nous on parlait des joueurs en Europe, enfin des joueurs qui ont un statut entre guillemets international ou qui s'en rapprochent. C'était sur ça, sur l'attractivité. Est-ce que tu vas pouvoir les attirer, notamment sans Coupe d'Europe? Maintenant, oui, si tu peux faire un recrutement Ligue 1 de grande qualité. Il y a des joueurs dans notre Ligue 1 qui sont de grande qualité. Oui, j'en parlais tout à l'heure. Mais si tu prends un Miko Tadze, un Logan Costa à Toulouse, un Bradley Loco, il y a des choses. Il y a bien évidemment il y a des choses à
c'est
faire.
C'est intéressant. Là-dessus, justement, on parlait juste du profil des recrues à Marseille. Il faut toujours envoyer du nom, des joueurs un peu référencés. Quand je dis référencés, c'est au moins 3-4 bonnes saisons dans les championnats européens. Est-ce qu'on est prêt à Marseille, c'est la question, à faire moins ronflant, comme un des locaux?
Non, je ne sais pas, parce que quand ils ont signé Moumbagna, par exemple, ça n'a pas été non plus très bien accueilli. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais, c'est un recrutement low cost, c'est un mec qu'on ne connaît pas, qui n'avance pas. Moi, je veux bien, mais il faut aussi savoir que le recrutement sans Coupe d'Europe, c'est pas le même. Maintenant, tu peux faire un top recrutement Ligue 1 et qui peut te permettre d'accéder à une Coupe d'Europe, ça c'est sûr. Maintenant,
ils l'ont essayé avec Quentin Merlin.
Il faut parce que malgré tout, le top Ligue 1, ça coûte cher maintenant. Quand tu vois les Eli Wahi, les Kalimuendo, c'est du recrutement Ligue 1, ça coûte très cher. Donc, est-ce que c'est peut-être pas plus intelligent d'aller sur un autre marché, type Pays-Bas ou choses comme ça, avec des jeunes qui ont déjà joué en première division, qui sont très bons
et
qui ont un salaire faible et que tu pourras bien revendre. Je pense qu'il faut un mix de tout.
Elle est là, toute la difficulté
en
de
Belgique aussi, parce que je pense que pour venir à l'OM, il faut avoir une certaine connaissance de la Ligue 1 et du contexte marseillais. C'est pour ça, ce qui peut marcher par exemple à Toulouse ou à Lens ou à Brest, ça peut ne pas marcher à l'OM. Là, je parle de recrues. On va dire continental. Mais moi, je pense, en effet, mais Marseille a déjà tenté des coups en Ligue 1. Tu parlais de Wally de Quentin Merlin. Il y a aussi le jeune Bamo Meite qui est venu, même si c'était moi. Unai, bon, il a flambé au Mondial, ça vient d'Angers.
Oui, c'est vrai.
Moi, je pense qu'il y a pas mal de joueurs. Et je pense que on va dire la direction marseillaise, on a conscience. Après, je pense que c'est surtout les. Après, Mika, hein, je parle sous ta caution. Je pense que c'est aux supporters marseillais d'avoir cette éducation-là, de comprendre qu'il y a aussi en Ligue 1 des produits et des joueurs qui sont vraiment intéressants, qui peuvent s'adapter au contexte marseillais. Et c'est plus compliqué pour les recrues, je pense, continentales à venir dans le contexte marseillais. Ça peut être plus compliqué pour eux.
Bien sûr, ouais. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, Ricardo. En fait, moi, je pense que, tu vois, alors, un mec comme Rongier, ça a été un des. Alors, sauf cette saison, parce que le pauvre a été blessé, mais en fait, il a été exemplaire quasiment. Et certes, les supporters étaient un petit peu sceptiques quand il est arrivé. Mais en fait, au fond, tu te dis que ça a quand même été une réussite. Moi, je reste persuadé que, de toute manière, l'année prochaine, tu vas jouer un match par semaine.
Ouais.
Donc, t'as pas besoin d'avoir 24 joueurs. Ce qui va être le plus compliqué, ce que je disais à Max, c'est qu'en matière d'attractivité pour que les joueurs viennent, je me fais pas trop de soucis. Ce qui va être le plus compliqué, c'est de les faire partir. C'est surtout ceux que t'as envie de, tu vois, ceux que t'as envie de faire partir, ça va être plus compliqué.
Il y a un championnat magique, j'en ai parlé tout à l'heure. Je pense qu'il y a des possibilités de sortie sur
certains
joueurs. Il y a des portes, ouais.
Mais tu pourras pas virer tout le monde.
Moi, je serais pas étonné, par exemple, qu'un Kondogbia aille en Arabie Saoudite et qu'un joueur comme Kefren Thuram arrive à l'OM, par exemple.
Bah, ça serait une belle pioche.
Ouais, mais c'est bon aussi, hein.
Ouais, non, mais
cher, hein.
Je pense que c'est entre 10 et 15 aujourd'hui, Kefren Thuram.
Et ouais, plus un salaire.
Ouais. Oui, enfin, un salaire, ouais. Je pense pas que ce soit le même salaire que Kondogbia, Kefren Thuram.
Tu sais, à Brest, mais aussi, Lilian Brassier qui est très bon, mais moi, je pense pas à lui parce que c'est une grosse cote, une grosse valeur marchande.
Oui, après, il y a de la concurrence aussi étrangère. Lilian Brassier, il y avait Porto en janvier ou l'été dernier, ou Monaco. Donc, oui, le problème, c'est qu'ils vont être concurrencés par des gros clubs à l'étranger. Même sur des profils, les Mawissa, les Logan Costa, etc., où c'est pas encore des joueurs confirmés, c'est des joueurs qui ont montré des belles choses dans des clubs intermédiaires, mais qui sont pas encore confirmés.
Kefren Thuram, il est sur quel marché? 10-15 millions, il disait, c'est à peu près ça?
Ouais, à peu près, peut-être un peu plus, mais en tout cas, je sais que l'année dernière, il y avait des clubs beaucoup plus importants sur lui, ça c'est sûr.
Il y a l'Italie,
là,
la cote, elle a baissé.
Elle a bien baissé même.
Ouais.
Merci Mickaël d'avoir fait le 32-16. Tu reviens quand tu veux dans Génération After. Bonne soirée à toi, à très vite sur RMC. Évolution du score entre le Paris FC et Rodez, Julien Landry.
Ouais, le Raf a rapidement réagi avec le penalty signé du capitaine Bradley Danger après une magnifique tête d'abord d'Untunji, boxé par le portier qui a concédé le corner, et derrière le penalty pour les Ritenois qui sont repartis à l'attaque avec un 2 contre 2 à jouer avec Silla sur le couloir droit qui va trouver Corridor qui va redonner les ballons à Silla. Dans la salle de réparation, le centre deuxième poteau pour Untunji, on vient de lui enlever la balle. Marchetti qui vient d'enlever le ballon à Untunji, les Parisiens qui viennent d'avoir une situation 2 minutes avant avec une magnifique parade de Jaouen, et le portier prêté par Reims, 18 ans, très très bon le jeune portier prêté par Reims, mais voilà, on se rend coup pour coup dans cette partie.
Très fort, hein.
On aura des buts à Rodez, Ligue 2.
Rodez, deuxième attaque de Ligue 2, exactement, qui a l'habitude de jouer en tout cas tous les coups depuis le début de la partie, mais c'est vrai qu'on se régale depuis 13 minutes à Paul Lignon, un partout entre Rodez et Paris.
Dans un instant, Monaco doit-il viser encore plus haut la saison prochaine? Et plus haut, c'est quoi? C'est le titre. Peut-il chatouiller, concurrencer le PSG? Et également, quel objectif en Ligue des Champions? On aura des éléments à vous donner dans un instant sur RMC dans Génération After. Et il est 20h43. À tout de suite.
RMC, 20h22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Jennifer Mendelevitch, agent de joueur. Avec. C'est l'alerte pour la roue RMC. Si vous voulez la tourner, vous envoyez, et vous avez 5 minutes dès à présent pour envoyer roue au 732-16. Roue au 732-16 et tenter de gagner jusqu'à 20 000 euros. Soyez attentifs. Maxime Thiet arrive dans un instant. Jennifer Mendelevitch à mes côtés. Ricardo Fati et Walid Acharchour. Bonsoir Maxime.
Salut tout le monde, bonsoir à tous.
Correspondant RMC sur la Côte d'Azur, Nice et Monaco. On parle de Monaco avec toi, car tu as rencontré aujourd'hui Thiago Scuro, le directeur sportif brésilien de l'ASM. Alors avant qu'on parle du sportif, rapidement Maxime, est-ce que tu as évoqué avec lui le cas Mohamed Camara, hein, qui a refusé dimanche soir de s'associer à la journée contre l'homophobie?
Évidemment, c'est le sujet chaud en ce moment, même s'il y en a plusieurs en principauté. 48 heures après les faits, quasiment, il s'est toujours pas excusé, Mohamed Camara. Les joueurs sont partis en vacances, même s'il y a eu un repas après le match dimanche soir avec tous les salariés du club. Mais il n'y a pas eu d'excuse de la part de Mohamed Camara sur le fait d'avoir strappé donc ce logo, de pas avoir pris la pause pour la photo d'avant-match. La SM, en revanche, s'est excusée auprès de la Ligue. Il y a un coup de fil qui a été passé au directeur général de la LFP. Pour l'instant, aucune sanction n'a été prise par Monaco, et Thiago Scuro dit plutôt que voilà, ils veulent régler ça en interne et voir ensuite comment ça se passera, prendre la meilleure décision pour tout le monde, et en espérant que d'ici la reprise au 25 juin, l'affaire ait été un petit peu étouffée également, et que ça fasse pas trop de bruit, que ça devienne pas une affaire d'État non plus.
Est-ce qu'on savait qu'à Monaco qu'il allait cacher les badges Stop Homophobie ou pas? On l'a découvert sur le moment.
Ça a été découvert sur le moment, c'est ce qui nous a été dit. La saison passée, il n'avait pas participé à cette journée-là, touché à la cheville. Alors était-ce une blessure diplomatique ou pas, ça on le saura jamais vraiment, mais bon, en tout cas au club on estime qu'il y a eu un trou dans la raquette, que on a manqué de vigilance et que ils ont laissé passer ça et qu'ils le regrettent parce que ça ternit très clairement la fin de saison et la fête de cette saison réussie quoi.
Bon, voilà pour Mohamed Camara. Quelle ambition sportive pour l'AS Monaco? Est-ce que l'ASM peut viser encore, doit viser encore plus haut dès la saison prochaine? Tiens, t'as rencontré Thiago Scuro, je le disais. Est-ce que t'as déjà parlé d'objectifs déjà au mois de mai?
Oui. Même, hein. On s'est déjà projeté sur la saison prochaine avec lui. Pour lui, la saison déjà cette saison-là était très positive et donc il imagine la suivante dans la lignée de celle-ci, sachant qu'on abordera sans doute un petit peu le mercato dans quelques minutes. Mais voilà, ça va aller dans la lignée de cette saison-là avec un effectif qui aura quelques retouches, mais qui aura pas besoin d'être chamboulé. Donc on pourra avoir cette stabilité-là avec encore un adjuteur et donc la découverte de cette nouvelle Ligue des Champions. Ça faisait 6 ans que Monaco n'avait pas disputé la Ligue des Champions. Là, pour le retour, ce sera un tout nouveau format avec la volonté de passer la phase de groupe et puis accessoirement en Ligue 1, de se requalifier pour la Ligue des Champions, donc c'est-à-dire viser le top 3.
Le top 3, voire mieux. Est-ce que Monaco peut le faire? Tiens, l'ASM sera-t-elle agressive, ambitieuse sur le prochain mercato? C'est l'enjeu également. Tu as posé la question à Thiago Scuro. Écoutons sa réponse.
I think naturally having Champions League group stage.
Naturellement, avoir la Ligue des Champions nous permet d'être plus agressifs. Financièrement, on est dans de bonnes conditions. On continue à progresser. On a le soutien du président comme l'été dernier. On va être très ambitieux. On va dans la bonne direction. Avoir son soutien est crucial pour notre succès.
Having him on board on the discussions and supporting the plan is crucial for our success.
Est-ce qu'on doit attendre après cette super saison Monaco, cette très bonne saison en tout cas, qu'il ait la capacité et la volonté d'aller chercher le PSG?
Ah oui, moi j'attends.
Dès la saison prochaine?
Oui, dès la saison prochaine. Enfin, chercher le PSG, les titiller et dans la course au titre. Déjà, être numéro 2 derrière ce PSG. Mais c'est fou parce qu'on en parlait avec Jimmy Brown, notre producteur, dans la journée. Et moi, j'avais pas encore entendu ce que Thiago Scuro avait dit. Et je lui avais sorti le mot j'attends un Monaco agressif sur le mercato des transferts pour essayer de se renforcer avec la continuité de cette année et pour aller chercher quelque chose en Ligue 1 et surtout ne pas être qu'un figurant en Ligue des Champions. Je te dis pas que Monaco doit faire ce qu'ils ont fait en 2017, hein, demi-finale de Ligue des Champions, mais en tout cas sortir de ce nouveau format et d'aller en huitième de finale de Ligue des Champions, parce que je pense qu'aujourd'hui Monaco, avec la manne financière, avec l'aide fiscale sur les joueurs étrangers notamment, et plus l'académie, hein, le groupe élite qui sort tous les ans des cracks,
pépites sur pépites,
et des pépites, ils ont vraiment cette possibilité là ils doivent avoir cette ambition là et c'est la normalité de voir Monaco aujourd'hui en Ligue des Champions, et le côté anormal c'était de ne pas les voir pendant 6 ans. Et cette année ça va être intéressant parce que tu vas avoir le départ de Ben Yedder libre.
On nous dit on va en parler.
C'est pas acquis,
la grosse tendance.
En France, c'est la grosse tendance. On nous dit que Fofana aussi va sûrement
partir.
Sortie,
ouais.
Il aura un bon sorti un an de la fin de son contrat, et que derrière, avec les jeunes, Akliouche qui a fait une super fin de saison, Golovin, Minamino, Ben Seguir qui a été beaucoup blessé cette saison, mais qui l'année prochaine, je pense, va revenir à un très très bon niveau. Il va falloir se renforcer défensivement parce que ça prend encore beaucoup de buts et ça concède beaucoup d'occasions. Et la deuxième année de Balogun. J'espère que Monaco, tout à l'heure on parlait de Marseille, on sait pas où est-ce qu'ils vont aller, que Monaco va profiter de cette année tremplin là pour passer la deuxième et faire encore un meilleur travail, renforcer son équipe.
Monaco doit en tout cas afficher une telle ambition.
Bah c'est normal, ils finissent deuxième. Moi ma seule interrogation c'est qu'on annonce des rumeurs de vente du club en fait.
Oui, c'est
fait. Et c'est un point qu'il faut quand même pas négliger. Pour moi le plus important ça reste la stabilité et il faut qu'il continue à aller dans le même sens, même si à mon sens il y a quand même eu déjà des investissements qui ont pas toujours été, pour moi la première saison de Balogun elle est hyper décevante. T'achètes Mohamed Salisu 15 millions, c'est aussi très décevant, il est blessé. Mais il a un historique de blessures que tu dois connaître au moment où tu l'achètes. Donc il va falloir dépenser beaucoup, mais il va falloir dépenser bien.
Qui n'a pas été dingue non plus,
mais bon, voilà.
C'est plutôt positif quand même.
Oui, positif, non. Mais je ne suis pas transcendé défensivement.
C'est un bon effectif, mais il va falloir le retravailler si tu veux vraiment aller chercher le PSG, si tu veux être performant en Ligue des Champions. Et si tu... Mais encore une fois, pour moi, la force de l'AS Monaco, c'est aussi son centre de formation. Et il faut pas non plus que les achats ferment la porte aux jeunes qui viennent taper à la porte. Ils les développent au niveau du cercle de Bruges. Ils leur permettent d'avoir du temps de jeu là-bas. Mais à un moment donné, ces jeunes-là, ils veulent venir jouer à l'AS Monaco et il faut aussi leur laisser la place.
Oui, il faut bien cibler après.
Encore
une fois, Akliouch, Ben Seguir, mais on n'a pas de joueurs qui émergent pour l'instant défensivement. Il faut se renforcer défensivement au milieu de terrain. Quand tu as le départ d'un Fofana qui est quand même très important, s'il part, faut renforcer aussi. Et surtout, sur cette possibilité de pouvoir titiller le PSG, Nico, j'ai oublié un argument, c'est que tu as le départ de Mbappé du côté du PSG. C'est ça aussi, il faut essayer de s'en rapprocher. Alors bien évidemment,
on va
recruter, va se renforcer. Mais il peut avoir aussi une possibilité par rapport à ça.
Max, un mot sur ce qu'évoquait à l'instant Jennifer, la vente possible du club et puis les éventuelles conséquences sur la saison à venir.
Bah, sur la vente, il a pas dit grand chose, mis à part que bon, si vente il devait y avoir, il aimerait être fixé au plus vite parce que ça peut changer un petit peu le plan de travail. Mais lui, quoi qu'il en soit, travaille avec tous les employés au jour le jour, avec ce qu'il a entre les mains. Et d'ailleurs, il s'est félicité de voir que même quand c'est sorti en début d'année l'information que le propriétaire sondait un petit peu les offres, voir ce que ça pouvait valoir, le club est resté sur son sur ses rails jusqu'au bout pour finaliser cette bonne saison et bien finir. Donc non, sur la vente, eux, ils sont plutôt, ils travaillent et ils verront ce qui se passe, si ça peut évoluer. Mais même sans ça, ça doit être positif. Jennifer évoquait les arrivées l'été dernier, il y a eu pas mal d'investissements déjà faits. Ça peut continuer en ce sens, surtout si...
Singo et Zakaria, j'aime beaucoup.
Ah ouais, non, ça a été des très bons coups. Et puis si Wissam Ben Yedder s'en va, ça va libérer pas mal de masse salariale. Youssouf Fofana également, donc ça va permettre Maripane aussi, qui reste un an de contrat, qui a un bon de sortie. Ça va être un joli chantier pour ajouter un petit peu peut-être d'expérience et de qualité en plus en profondeur à cette équipe.
Merci Maxime. Ton interview à retrouver sur le site rmsport.fr, bien sûr. Interview de Thiago Scouro. Très bonne soirée.
Un petit mot sur Wissam.
Oui, quand même.
Ben Yedder. Bon, officiellement il y a des échanges, mais les signaux nous laissent pas penser forcément qu'il y aura une prolongation des deux parties, parce que bon, déjà c'est un énorme salaire. Ça, c'est les salaires qu'on donne plus à Monaco depuis un moment. Il a le double de salaire d'un Alexander Golovin, qui est
200 000, quoi, c'est ça.
Un petit peu en dessous, plutôt autour des 600. Au-dessus des 600 même. Et puis il y a cette histoire évidemment de judiciaire, donc forcément ça n'arrange rien. Mais Monaco peut pas dire non plus au revoir à son capitaine depuis quasiment 4-5 ans, qui a joué 200 matchs et qui est le deuxième meilleur buteur de l'histoire, lui dire au revoir comme ça aussi facilement. Donc voilà, faut essayer de mettre les formes des deux côtés pour se séparer du mieux possible.
Je serais pas surpris de le voir jouer le lundi soir à 17h sur Canal+.
Tout à fait, on a compris.
Et un temps aussi pour les Bleus aux Jeux Olympiques, enfin les joueurs même d'autres nations, l'ASM est partante pour libérer ces joueurs. Il y avait deux conditions pour que ça se fasse, c'était que le joueur en question ait des vacances avant la compétition, donc ce sera le cas, et que l'AS Monaco ne joue pas de barrage cet été, c'est le cas également, donc on devrait voir des Monégasques cet été lors des Jeux Olympiques, la compétition de football.
Et une dernière question, Maxime, la question du gardien, très rapidement.
Oui.
Majeki ou Majeki?
Majeki, oui.
Avec sa production sur la fin de saison, ce sera lui. Numéro 1 l'année prochaine.
Il sera numéro 1. Il vient de prolonger son contrat jusqu'en 2028. Il a fait 6 clean sheets sur les 12 dernières journées de championnat depuis qu'il a été intronisé numéro 1. Et donc la volonté, c'est de l'installer à ce poste-là. Okay. Et l'option d'achat de Thilo Kehrer aussi était le
coup. C'est une bonne idée.
Enfin, un gardien fixe à Monaco, c'est un gardien fiable.
Après Nubel, après Philippe Keun. Merci Maxime.
Merci à vous.
Très bonne soirée à toi. À très vite sur RMC. Rodez, Paris FC, la 28e minute de jeu. Julien Landry.
Un partout entre les deux formations, ouverture du score parisienne, Pardico, égalisation de danger sur pénalty, domination ruténoise depuis l'égalisation de danger avec un très bon joueur, je vous conseille de suivre Kylian Corredor, l'attaquant de Rodez, Montpellierin, formé du côté de Toulouse et qui attire beaucoup de regards de recruteurs, notamment de Ligue 1. Alors évidemment il est intéressé par retourner à Montpellier, mais c'est vraiment un très très bon joueur de notre Ligue 2, Kylian Corredor, qui s'est procuré deux situations. Il est tombé deux fois sur le portier parisien. Un partout entre Rodez et Paris.
À tout à l'heure Julien, dans un instant, Lyon peut-il finir sa saison en apothéose avant la finale de Coupe de France, bien sûr, contre le PSG. Vous êtes nombreux supporters de Lyon au 32-16. Restez avec nous, c'est RMC, c'est Génération After.
Génération After.